Chapitre 9. Comme il y a des clés qui ouvrent les portes auxquelles elles ne sont pas destinées, seconde nuit de noces. La reine de Navarre, en entrant au Louvre, trouva Gionne dans une grande émotion. Madame de Sauve était venue en son absence. Elle avait apporté une clé que lui avait fait passer la reine-mère. Cette clé était celle de la chambre où était enfermé Henri. Il était évident que la reine-mère avait besoin, pour un dessein quelconque, que le Béarnais passât cette nuit chez Madame de Sauve. Marguerite prit la clé, la tourna et la retourna entre ses mains. Elle se fit rendre compte des moindres paroles de Madame de Sauve, les pesa lettre par lettre dans son esprit et crut avoir compris le projet de Catherine. Elle prit une plume, de l'encre et écrivit sur un papier « Au lieu d'aller ce soir chez Madame de Sauve, venez chez la reine de Navarre. » Marguerite. Puis elle roula le papier, l'introduisit dans le trou de la clé et ordonna à Gionne, dès que la nuit serait venue, d'aller glisser cette clé sous la porte du prisonnier. Ce premier soin accompli, Marguerite pensa au pauvre blessé. Elle ferma toutes les portes, entra dans le cabinet et, à son grand étonnement, elle trouva la Mole revêtue de ses habits encore tout déchirés et tout tachés de sang. En la voyant, il essaya de se lever, mais, chancelant encore, il ne put se tenir debout et retomba sur le canapé dont on avait fait un lit. « Mais qu'arrive-t-il donc, monsieur ? » demanda Marguerite. « Et pourquoi suivez-vous si mal les ordonnances de votre médecin ? Je vous avais recommandé le repos, et voilà qu'au lieu de m'obéir, vous faites tout le contraire de ce que j'ai ordonné. » « Ah, madame, dit Gionne, ce n'est point ma faute. J'ai prié, j'ai supplié monsieur le comte de point faire cette folie, et il m'a déclaré que rien ne le retiendrait plus longtemps au Louvre. »« Quittez le Louvre, dit Marguerite, en regardant avec étonnement le jeune homme qui baissait les yeux. « Mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas marcher. Vous êtes pâle et sans force. On voit trembler vos genoux. Ce matin, votre blessure de l'épaule a saigné encore. » « Madame, répondit le jeune homme, autant j'ai rendu grâce à votre majesté de m'avoir donné asile hier au soir, autant je la supplie de vouloir bien me permettre de partir aujourd'hui. » « Mais, dit Marguerite étonnée, je ne sais comment qualifier une si folle résolution, c'est pire que de l'ingratitude. » « Oh, madame, s'écria la Mole en joignant les mains, croyez que loin d'être ingrat, il y a dans mon cœur un sentiment de reconnaissance qui durera toute ma vie. » « Il ne durera pas longtemps, alors, dit Marguerite, émue à cet accent qui ne laissait pas de doute sur la sincérité des paroles, car ou vos blessures se rouvriront et vous mourrez de la perte du sang, ou l'on vous reconnaîtra comme huguenot et vous ne ferez pas 100 pas dans la rue sans qu'on vous achève. Il faut pourtant que je quitte le Louvre, murmura la Mole. « Il faut, dit Marguerite en le regardant de son regard limpide et profond, puis pâlissant légèrement. « Oh oui, je comprends tout, dit-elle. Pardon, monsieur, il y a sans doute hors du Louvre une personne à qui votre absence donne de cruelles inquiétudes. Ah, c'est juste, monsieur de la Mole, c'est naturel, je comprends cela. Que ne l'avez-vous dit tout de suite, ou plutôt, comment n'y ai-je pas songé moi-même? C'est un devoir, quand on exerce l'hospitalité, de protéger les affections de son hôte comme on pense les blessures, et de soigner l'âme comme on soigne le corps. » « Hélas, madame, répondit la Mole, vous vous trompez étrangement, je suis presque seul au monde, et tout à fait seul à Paris, où personne ne me connaît. Mon assassin est le premier homme à qui j'ai parlé dans cette ville, et votre majesté est la première femme qui m'y ait adressé la parole. » « Alors, dit Marguerite surprise, pourquoi voulez-vous donc vous en aller ?»« Parce que, dit la Mole, la nuit passée, votre majesté n'a pris aucun repos, et que cette nuit... » Marguerite rougit. « Gionne, dit-elle, voici la nuit venue, je crois qu'il est temps que tu ailles porter la clé. » Gionne sourit et se retira. « Mais, continua Marguerite, si vous êtes seule à Paris, sans amis, comment ferez-vous ? Madame, j'en aurais beaucoup, car tandis que j'étais poursuivi, j'ai pensé à ma mère qui était catholique. Il m'a semblé que je la voyais glisser devant moi sur le chemin du Louvre de croix à la main, et j'ai fait vœu, si Dieu me conservait la vie, d'embrasser la religion de ma mère. Dieu a fait plus que me conserver la vie, madame. Il m'a envoyé un de ses anges pour me la faire aimer.
Madame, répondit la Mole en pâlissant, vous venez de toucher à la véritable cause de mon départ.
Le roi de Navarre, je sais que le roi de Navarre court
les plus grands dangers et que tout le crédit de votre majesté,
vous donc perdu le désir d'entrer à son service,
à peine à sauver sa tête.
Comment, monsieur, demanda Marguerite, que voulez-vous dire et de quel danger me parlez-vous?
Madame, répondit la mole en hésitant, on entend tout du cabinet où je suis placé. C'est vrai, s'écria Marguerite pour elle seule, monsieur de Guise me l'avait déjà dit. Puis, tout haut, eh bien, ajouta-t-elle, qu'avez-vous donc entendu? Mais d'abord la conversation que votre majesté a eue ce matin avec son frère. Avec François, s'écria Marguerite en rougissant. Avec le duc d'Alençon, oui, madame, puis ensuite, après votre départ, celle de mademoiselle Gionne avec madame de Sauve. Et ce sont ces deux conversations. Oui, madame. Mariée depuis 8 jours à peine, vous aimez votre époux. Votre époux viendra à son tour, comme sont venus monsieur le duc d'Alençon et madame de Sauve. Il vous entretiendra de ses secrets. Eh bien, je ne dois pas les entendre, je serai indiscret, je ne puis pas, je ne dois pas, surtout je ne veux pas l'être. Au ton que la mole mit à prononcer ces derniers mots, au trouble de sa voix, à l'embarras de sa contenance, Marguerite fut illuminée d'une révélation subite. « Ah, dit-elle, vous avez entendu de ce cabinet tout ce qui a été dit dans cette chambre jusqu'à présent ?»« Oui, madame. » Ces mots furent soupirés à peine. « Et vous voulez partir cette nuit, ce soir, pour n'en pas entendre davantage ?»« À l'instant même, madame, s'il plaît à votre majesté de me le permettre. » « Pauvre enfant, dit Marguerite avec un singulier accent de douce pitié. » Étonné d'une réponse si douce, lorsqu'il s'attendait à quelque brusque riposte, la mole leva timidement la tête. Son regard rencontra celui de Marguerite et demeura rivé, comme par une puissance magnétique, sur le limpide et profond regard de la reine. « Vous vous sentez donc incapable de garder un secret, monsieur de la Mole ?» dit doucement Marguerite, qui, penchée sur le dossier de son siège, à moitié caché par l'ombre d'une tapisserie épaisse, jouissait du bonheur de lire couramment dans cette âme en restant impénétrable elle-même. « Madame, dit la Mole, je suis d'une misérable nature, je me défie de moi-même, et le bonheur d'autrui me fait mal. »« Le bonheur de qui ?» dit Marguerite en souriant. « Ah oui, le bonheur du roi de Navarre, pauvre Henri !»« Vous voyez bien qu'il est heureux, madame !» s'écria vivement la mole. « Heureux ? Oui, puisque votre majesté le plaint !» Marguerite chiffonnait la soie de son aumônière et en effilait la torsade d'or. « Ainsi, vous refusez de voir le roi de Navarre, dit-elle, s'est arrêté, s'est décidé dans votre esprit. Je crains d'importuner sa majesté en ce moment. » « Mais le duc d'Alençon, mon frère... »« Oh, madame, s'écria la mole, monsieur le duc d'Alençon... »« Non, non, moins encore monsieur le duc d'Alençon que le roi de Navarre... »« Parce que, demanda Marguerite, émue au point de trembler en parlant... »« Parce que, quoique déjà trop mauvais huguenot pour être serviteur bien dévoué de sa majesté le roi de Navarre, je ne suis pas encore assez bon catholique pour être des amis de monsieur d'Alençon et de monsieur de Guise... » Cette fois, ce fut Marguerite qui baissa les yeux et qui sentit le coup vibrer au plus profond de son cœur. Elle n'eut pas su dire si le mot de la mole était pour elle caressant ou douloureux. En ce moment, Gionne entra. Marguerite l'interrogea d'un coup d'œil. La réponse de Gionne, renfermée aussi dans un regard, fut affirmative. Elle était parvenue à faire passer la clé au roi de Navarre. Marguerite ramena ses yeux sur la mole qui demeurait devant elle, indécis, la tête penchée sur sa poitrine et pâle comme l'est un homme qui souffre à la fois du corps et de l'âme. « Monsieur de la mole est fier, dit-elle, et j'hésite à lui faire une proposition qu'il refusera sans doute. » La mole se leva, fit un pas vers Marguerite et voulut s'incliner devant elle en signe qu'il était à ses ordres. Mais une douleur profonde, aiguë, brûlante, vint tirer des larmes de ses yeux, et sentant qu'il allait tomber, il saisit une tapisserie à laquelle il se soutint. « Ah, voyez-vous, s'écria Marguerite en courant à lui et en le retenant dans ses bras, voyez-vous, monsieur, que vous avez encore besoin de moi ?» Un mouvement à peine sensible agita les lèvres de la mole. « Oui, oui, murmura-t-il, comme de l'air que je respire, comme du jour que je vois. » En ce moment, 3 coups retentirent, frappés à la porte de Marguerite. « Entendez-vous, madame ?» dit Gionne effrayé. « Déjà, » murmura Marguerite. « Faut-il ouvrir ?»« Attends, c'est le roi de Navarre, peut-être. Hein. »« Oh, madame !» s'écria la mole, rendue fort par ces quelques mots que la reine avait cependant prononcés à voix si basse qu'elle espérait que Gionne seul les aurait entendus. « Madame, je vous en supplie à genoux, faites-moi sortir, oui, mort au vif, madame, ayez pitié de moi. Oh, vous ne répondez pas, eh bien, je vais parler, quand j'aurai parlé, vous me chasserez, je l'espère. » Taisez-vous, malheureux, dit Marguerite, qui ressentait un charme infini à écouter le reproche du jeune homme. Taisez-vous donc. Madame, reprit la Mole, qui ne trouvait pas sans doute dans l'accent de Marguerite cette rigueur à laquelle il s'attendait, madame, je vous le répète, on entend tout de ce cabinet. Oh, ne me faites pas mourir d'une mort que les bourreaux les plus cruels n'oseraient inventer.
Silence, silence, dit Marguerite.
Oh, madame, vous êtes sans pitié, vous ne voulez rien écouter, vous ne voulez rien entendre, mais comprenez donc que je vous aime.
Silence donc, puisque je vous le dis, interrompit Marguerite en appuyant sa main tiède et parfumée sous la bouche du jeune homme, qui la saisit entre ses deux mains et l'appuya contre ses lèvres.
Mais, murmura la Mole, mettez-vous donc, enfant, qu'est-ce donc que ce rebelle qui ne veut pas obéir à sa reine? Puis, s'élançant hors du cabinet, elle referma la porte et, s'adossant à la muraille en comprimant avec sa main tremblante les battements de son cœur, « Ouvre, Gionne, » dit-elle. Gionne sortit de la chambre et, un instant après, la tête fine, spirituelle et un peu inquiète du roi de Navarre souleva la tapisserie.
« Vous m'avez mandé, madame, » dit le roi de Navarre à Marguerite.
« Oui, monsieur, votre majesté a reçu ma lettre ?»«
Et non, sans quelque étonnement, je l'avoue, » dit Henri, en regardant autour de lui avec une défiance bientôt évanouie.
« Et non, sans quelque inquiétude, n'est-ce pas, monsieur ?» ajouta Marguerite.
« Je vous l'avouerai, madame. Cependant, tout entouré que je suis d'ennemis acharnés et d'amis plus dangereux encore peut-être que mes ennemis, je me suis rappelé qu'un soir j'avais vu rayonner dans vos yeux le sentiment de la générosité. C'était le soir de nos noces, qu'un autre jour j'y avais vu briller l'étoile du courage, et cet autre jour c'était hier, jour fixé pour ma mort. »
« Eh bien, monsieur, » dit Marguerite en souriant, tandis que Henri semblait vouloir lire jusqu'au fond de son cœur.
« Eh bien, madame, en songeant à tout cela, je me suis dit, à l'instant même, en lisant votre billet qui me disait de venir, sans ami comme il est, prisonnier, désarmé, le roi de Navarre n'a qu'un moyen de mourir avec éclat, d'une mort qu'enregistre l'histoire, c'est de mourir trahi par sa femme. Je suis venu. »
« Sire, répondit Marguerite, vous changerez de langage quand vous saurez que tout ce qui se fait en ce moment est l'ouvrage d'une personne qui vous aime et que vous aimez. » Henri recula presque à ses paroles et, son œil gris et perçant, interrogea sous son sourcil noir la reine avec curiosité.
« Oh, rassurez-vous, sire, dit la reine en souriant, cette personne, je n'ai pas la prétention de dire que ce soit moi. »
« Mais cependant, madame, dit Henri, c'est vous qui m'avez fait tenir cette clé, cette écriture, c'est la vôtre.
Cette écriture est la mienne, je l'avoue, ce billet vient de moi, je ne le nie pas. Quant à cette clé, c'est autre chose, qu'il vous suffise de savoir qu'elle a passé entre les mains de 4 femmes avant d'arriver jusqu'à vous. »«
De 4 femmes ? » s'écria Henri avec étonnement.
« Oui, entre les mains de 4 femmes, dit Marguerite, entre les mains de la reine-mère, entre les mains de Madame de Sauve, entre les mains de Gionne et entre les miennes. »
Henri se mit à méditer cette énigme.
« Parlons raison maintenant, monsieur, dit Marguerite, et surtout, parlons franc. Est-il vrai, comme c'est aujourd'hui le bruit public, que votre majesté consente à abjurer ?»«
Ce bruit public se trompe, madame, je n'ai pas encore consenti. » »«
Vous êtes décidé, cependant. »
« C'est-à-dire, je me consulte, que voulez-vous? Quand on a 20 ans et qu'on est à peu près roi, ventre Saint-Gris, il y a des choses qui valent bien une messe.
Et, entre autres choses, la vie, n'est-ce pas ?»
Henri ne put réprimer un léger sourire.
« Vous ne me dites pas toute votre pensée, sire, dit Marguerite.
Je fais des réserves pour mes alliés, madame, car vous le savez, nous ne sommes encore qu'alliés, si vous étiez à la fois mon allié et...
« Et votre femme, n'est-ce pas, sire ?»«
Ma foi, oui, et ma femme. »«
Alors ?»«
Alors, peut-être serait-ce différent, et peut-être tiendrais-je à rester roi des Huguenots, comme ils disent. Maintenant, il faut que je me contente de vivre. »
Marguerite regarda Henri d'un air si étrange qu'il eût éveillé des soupçons d'un esprit moins délié que ne l'était celui de roi de Navarre.
« Et êtes-vous sûr au moins d'arriver à ce résultat ? » dit-elle. « Mais à peu près, dit Henri, vous savez qu'en ce monde, madame, on n'est jamais sûr de rien. »
« Il est vrai, reprit Marguerite, que votre majesté annonce tant de modération et professe tant de désintéressement qu'après avoir renoncé à sa couronne, après avoir renoncé à sa religion, elle renoncera probablement, on a l'espoir du moins, à son alliance avec une fille de France. »
Ces mots portaient avec eux une si profonde signification que Henri en frissonna malgré lui. Puis, domptant cette émotion avec la rapidité de l'éclair, « Daignez-vous souvenir, madame, qu'en ce moment, je n'ai point mon libre arbitre. Je ne ferai donc que ce que m'ordonnera le roi de France. » Ce calme résigné à sa situation, cette renonciation aux choses de ce monde, effrayèrent Marguerite. Elle pensa que peut-être cette rupture de mariage était convenue entre Charles IX, Catherine et le roi de Navarre. Pourquoi, elle aussi, ne la prendrait-on pas pour dupe ou pour victime? Parce qu'elle était sœur de l'un et fille de l'autre. L'expérience lui avait appris que ce n'était point là une raison sur laquelle elle put fonder sa sécurité. L'ambition donc mordit au cœur de la jeune femme, ou plutôt de la jeune reine, trop au-dessus des faiblesses vulgaires pour se laisser entraîner à un dépit d'amour-propre. Chez toute femme, même médiocre, lorsqu'elle l'aime, l'amour n'a point de ses misères, car l'amour véritable est aussi une ambition. « Votre Majesté, dit Marguerite, avec une sorte de dédain railleur, n'a pas grande confiance, ce me semble, dans l'étoile qui rayonne au-dessus du front de chaque roi. « Ah, dit Henri, c'est que j'ai beau chercher la mienne en ce moment, je ne puis la voir, cachée qu'elle l'est dans l'orage qui gronde sur moi à cette heure. » Et si le souffle d'une femme écartait cet orage et faisait cette étoile aussi brillante que jamais, oh, c'est bien difficile, dit Henri. Niez-vous l'existence de cette femme, monsieur ? Non, seulement je nie son pouvoir. Vous voulez dire sa volonté ? J'ai dit son pouvoir, et je répète le mot. La femme n'est réellement puissante que lorsque l'amour et l'intérêt sont réunis chez elle à un degré égal, et si l'un de ces deux sentiments la préoccupe seule, comme Achille, elle est vulnérable. Or cette femme, si je ne m'abuse, je ne puis pas compter sur son amour. Marguerite se tut. « Écoutez, continua Henri, au dernier tintement de la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois, vous avez dû songer à reconquérir votre liberté qu'on avait mise en gage pour détruire ce nouveau parti. Moi, j'ai dû songer à sauver ma vie, c'était le plus pressé. Nous y perdons la Navarre, je le sais bien, mais c'est peu de chose que la Navarre en comparaison de la liberté qui vous est rendue de pouvoir parler haut dans votre chambre, ce que vous n'osiez pas faire quand vous aviez quelqu'un qui vous écoutait de ce cabinet. » Quoiqu'au plus fort de sa préoccupation, Marguerite ne put s'empêcher de sourire. Quant au roi de Navarre, il était déjà levé pour regagner son appartement, car depuis quelque temps, 11 heures étaient sonnées, et tout dormait, ou du moins semblait dormir, au Louvre. Henri fit 3 pas vers la porte, puis, s'arrêtant tout à coup, comme s'il se rappelait seulement à cette heure la circonstance qu'il avait amenée chez la reine, « À propos, madame, dit-il, n'avez-vous point à me communiquer certaines choses, ou ne vouliez-vous que m'offrir l'occasion de vous remercier du répit que votre brave présence dans le cabinet des armes du roi m'a donné hier ? En vérité, madame, il était temps, je ne puis le nier, et vous êtes descendue sur le lieu de la scène comme la divinité antique, juste à point pour me sauver la vie. » « Malheureux !» s'écria Marguerite d'une voix sourde en saisissant le bras de son mari. « Comment donc ne voyez-vous pas que rien n'est sauvé, au contraire, ni votre liberté, ni votre couronne, ni votre vie ? Aveugle, fou, pauvre fou, vous n'avez pas vu dans ma lettre autre chose, n'est-ce pas qu'un rendez-vous ? Vous avez cru que Marguerite, outrée de vos froideurs, désirait une réparation ?»« Mais, madame, dit Henri étonné, j'avoue... » Marguerite haussa les épaules avec une expression impossible à rendre. Au même instant, un bruit étrange, comme un grattement aigu et pressé, retentit à la petite porte dérobée. Marguerite entraîna le roi du côté de cette petite porte. « Écoutez, dit-elle. « La reine-mère sort de chez elle, murmura une voix saccadée par la terreur et que Henri reconnut à l'instant pour celle de madame de Sauve. « Et où va-t-elle ? Demanda Marguerite. « Elle vient chez votre majesté. » Et aussitôt, le frôlement d'une robe de soie prouva en s'éloignant que madame de Sauve s'enfuyait. « Oh ! S'écria Henri. « J'en étais sûr, dit Marguerite. « Et moi, je le craignais, dit Henri. « Et la preuve, voyez. » Alors, d'un geste rapide, il ouvrit son pourpoint de velours noir et, sur sa poitrine, fit voir à Marguerite une fine tunique de maille d'acier et un long poignard de Milan qui brilla aussitôt à sa main comme une vipère au soleil. « Il s'agit bien ici de fer et de cuirasse !» s'écria Marguerite. « Allons, sire, cachez cette dague. C'est la reine-mère, c'est vrai, mais c'est la reine-mère, toute seule. Cependant, c'est elle, je l'entends, silence !» Et, se penchant à l'oreille de Henri, elle lui dit à voix basse quelques mots que le jeune roi écouta avec une attention mêlée d'étonnement.
Aussitôt, Henri se déroba derrière les rideaux du lit. De son côté, Marguerite bondit avec l'agilité d'une panthère vers le cabinet où la mole attendait en frissonnant. L'ouvrit, chercha le jeune homme et, lui serrant la main dans l'obscurité, « Silence, dit-elle, en s'approchant si près de lui qu'il sentit son souffle tiède et embaumé couvrir son visage d'une molle vapeur. Silence !» Puis, rentrant dans sa chambre et refermant la porte, elle détacha sa coiffure, coupa avec son poignard tous les lacets de sa robe et se jeta dans le lit. Il était temps, la clé tournait dans la serrure. Catherine avait des passe-partout pour toutes les portes du Louvre. « Qui est là ?» s'écria Marguerite, tandis que Catherine consignait à la porte une garde de 4 gentilshommes qui l'avaient accompagnée. Et comme si elle eût été effrayée de cette brusque irruption dans sa chambre, Marguerite, sortant de dessous les rideaux en peignoir blanc, sauta au bas du lit et, reconnaissant Catherine, vint avec une surprise trop bien imitée pour que la Florentine elle-même n'en fût pas dupe, baiser la main de sa mère. La reine-mère promena son regard autour d'elle avec une merveilleuse rapidité. Des mules de velours au pied du lit, les habits de Marguerite épars sur les chaises, ses yeux qu'elle frottait pour en chasser le sommeil, convainquirent Catherine qu'elle avait réveillé sa fille. Alors elle sourit, comme une femme qui a réussi dans ses projets, et tirant un fauteuil, « Asseyons-nous, Marguerite, dit-elle, et causons. « Madame, je vous écoute. » « Il est temps, dit Catherine, en fermant les yeux avec cette lenteur particulière aux gens qui réfléchissent ou qui dissimulent profondément, il est temps, ma fille, que vous compreniez combien votre frère et moi aspirons à vous rendre heureuse. » L'exhorte était effrayant pour qui connaissait Catherine. « Que va-t-elle me dire ?» pensa Marguerite. Certes, en vous mariant, continua la Florentine, nous avons accompli un de ces actes de politique commandés souvent par de graves intérêts à ceux qui gouvernent, mais il le faut avouer, ma pauvre enfant, nous ne pensions pas que la répugnance du roi de Navarre pour vous, si jeune, si belle, si séduisante, demeurerait opiniâtre à ce point. Marguerite se leva et fit, en croisant sa robe de nuit, une cérémonieuse révérence à sa mère. « J'apprends de ce soir seulement, dit Catherine, car sans cela, je vous eusse visité plus tôt, j'apprends que votre mari est loin d'avoir pour vous les égards qu'on doit non seulement à une jolie femme, mais encore à une fille de France. » Marguerite poussa un soupir, et Catherine, encouragée par cette muette adhésion, continua. « En effet, que le roi de Navarre entretienne publiquement une de mes filles, qu'il adore jusqu'au scandale, qu'il fasse mépris pour cet amour de la femme qu'on a bien voulu lui accorder, c'est un malheur auquel nous ne pouvons remédier, nous autres, pauvres tout-puissants, mais que punirait le moindre gentilhomme de notre royaume en appelant son gendre ou en le faisant appeler par son fils ?» Marguerite baissa la tête. « Depuis assez longtemps, continua Catherine, je vois ma fille à vos yeux rougis, à vos amères sorties contre la sauve, que la plaie de votre cœur ne peut, malgré vos efforts, toujours saigner en dedans. » Marguerite tressaillit. Un léger mouvement avait agité le rideau. Mais heureusement, Catherine ne s'en était pas aperçue. « Cette plaie, dit-elle en redoublant d'affectueuse douceur, cette plaie, mon enfant, c'est à la main d'une mère qu'il appartient de la guérir. Ceux qui, en croyant faire votre bonheur, ont décidé votre mariage et qui, dans leur sollicitude pour vous, remarquent que chaque nuit, Henri de Navarre se trompe d'appartement. » Ceux qui ne peuvent admettre qu'un roitelet comme lui offense à tout instant une femme de votre beauté, de votre rang, de votre mérite, par le dédain de votre personne et la négligence de sa postérité, ceux qui voient enfin qu'au premier vent qu'il croira favorable, cette folle et insolente tête tournera contre notre famille et vous expulsera de sa maison, ceux-là n'ont-ils pas le droit d'assurer, en le séparant du sien, votre avenir d'une façon à la fois digne de vous et de votre condition ? Cependant, madame, répondit Marguerite, malgré ces observations tout empreintes d'amour maternel et qui me comblent de joie et d'honneur, j'aurai la hardiesse de représenter à votre majesté que le roi de Navarre est mon époux. Catherine fit un mouvement de colère et se rapprochant de Marguerite. « Lui, dit-elle, votre époux, suffit-il donc pour être mariée femme que l'Église vous ait bénie ? Et la consécration du mariage est-elle seulement dans les paroles du prêtre ? Lui, votre époux ? Eh, ma fille, si vous étiez madame de Sauve, vous pourriez me faire cette réponse.
mais tout au contraire de ce que nous attendions de lui depuis que vous avez accordé à Henri de Navarre l'honneur de vous nommer sa femme. C'est à une autre qu'il en a donné les droits. Et en ce moment même, dit Catherine en haussant la voix, venez, venez avec moi, cette clé ouvre la porte de l'appartement de Madame de Sauve et vous verrez.
« Oh, plus bas, madame, je vous prie, » dit Marguerite, « car non seulement vous vous trompez, mais encore,
eh bien, vous allez réveiller mon mari. » À ces mots, Marguerite se leva avec une grâce toute voluptueuse et laissant flotter entr'ouverte sa robe de nuit, dont les manches courtes laissaient à nu son bras d'un modèle si pur et sa main véritablement royale, elle approcha un flambeau de cire rosée du lit et, relevant le rideau, elle montra du doigt, en souriant à sa mère, le profil fier, les cheveux noirs et la bouche entr'ouverte du roi de Navarre, qui semblait, sous la couche en désordre, reposer du plus calme et du plus profond sommeil. Pâle, les yeux hagards, le corps cambré en arrière, comme si un abîme se fût ouvert sous ses pas, Catherine poussa non pas un cri, mais un rugissement sourd.
« Vous voyez, madame, dit Marguerite, que vous étiez mal informée. »
Catherine jeta un regard sur Marguerite, puis un autre sur Henri. Elle unit dans sa pensée l'image de ce front pâle et moite, de ses yeux entourés d'un léger cercle de bistre, au sourire de Marguerite, et elle mordit ses lèvres minces avec une fureur silencieuse. Marguerite permit à sa mère de contempler un instant ce tableau qui faisait sur elle l'effet de la tête de la méduse. Puis elle laissa retomber le rideau et, marchant sur la pointe des pieds, elle revint près de Catherine et, reprenant sa place sur sa chaise,
« Vous disiez donc, madame ?»
La Florentine chercha pendant quelques secondes à sonder cette naïveté de la jeune femme, puis, comme si ses regards éthérés se fussent émoussés sur le calme de Marguerite, « Rien, dit-elle, et elle sortit à grands pas de l'appartement. Aussitôt que le bruit de ses pas se fut assourdi dans la profondeur du corridor, le rideau du lit s'ouvrit de nouveau, et Henri, l'œil brillant, la respiration oppressée, la main tremblante, vint s'agenouiller devant Marguerite. Il était seulement vêtu de ses trousses et de sa cotte de maille, de sorte qu'en le voyant ainsi affublé, Marguerite, tout en lui serrant la main de bon cœur, ne put s'empêcher d'éclater de rire.
« Ah, madame, ah, Marguerite, s'écria-t-il, comment m'acquitterai-je jamais envers vous ?»
Et il couvrait sa main de baisers qui, de la main, montait insensiblement au bras de la jeune femme.
« Sire, dit-elle en se reculant tout doucement, oubliez-vous qu'à cette heure une pauvre femme à laquelle vous devez la vie souffre et gémit pour vous ?»
Madame de Sauve, ajouta-t-elle tout bas, vous a fait le sacrifice de sa jalousie en vous envoyant près de moi, et peut-être, après vous avoir fait le sacrifice de sa jalousie, vous fait-elle celui de sa vie, car vous savez mieux que personne, la colère de ma mère est terrible. Henri frissonna et, se relevant, fit un mouvement pour sortir.
Oh, mais, dit Marguerite avec une admirable coquetterie, je réfléchis et je me rassure. La clé vous a été donnée sans indication et vous serez censé m'avoir accordé ce soir la préférence.
Et je vous l'accorde, Marguerite. Consentez-vous seulement à oublier?
Plus bas, sire, plus bas, répliqua la reine, parodiant les paroles que 10 minutes auparavant elle venait d'adresser à sa mère.
On vous entend du cabinet, et comme je ne suis pas encore tout à fait libre, sire, je vous prierai de parler moins haut.
Oh, oh, dit Henri, moitié riant, moitié assombri,
c'est vrai, j'oubliais que ce n'est probablement pas moi qui suis destiné à jouer la fin de cette scène intéressante. Ce cabinet...
« Entrons-y, sire, dit Marguerite, car je veux avoir l'honneur de présenter à votre majesté un brave gentilhomme blessé pendant le massacre, en venant avertir jusque dans le Louvre votre majesté du danger qu'elle courait. »
La reine s'avança vers la porte, Henri suivit sa femme. La porte s'ouvrit et Henri demeura stupéfait en voyant un homme dans ce cabinet prédestiné aux surprises. Mais la Mole fut plus surpris encore en se trouvant inopinément à la face du roi de Navarre. Il en résulta que Henri jeta un coup d'œil ironique à Marguerite qui le soutint à merveille.
« Sire, dit Marguerite, j'en suis réduite à craindre qu'on ne tue dans mon logis même ce gentilhomme qui est dévoué au service de votre majesté et que je mets sous sa protection. »
« Sire, reprit alors le jeune homme, je suis le comte Lérac de la Mole, que votre majesté attendait et qui avait été recommandé par ce pauvre monsieur de Téligny qui a été tué à mes côtés. »
Ah, Fiori, en effet, monsieur, et la reine m'a remis sa lettre. Et n'aviez-vous pas aussi une lettre de monsieur le gouverneur du Languedoc ?
Oui, sire, et recommandation de la remettre à votre majesté aussitôt mon arrivée.
Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
Sire, je me suis rendu au Louvre dans la soirée d'hier, mais votre majesté était tellement occupée qu'elle n'a pu me recevoir.
Hein, c'est vrai, dit le roi, mais vous eussiez pu, ce me semble, me faire passer cette lettre.
J'avais ordre de la part de monsieur d'Auriac de ne la remettre qu'à votre majesté elle-même, car elle contenait, m'a-t-il assuré, un avis si important qu'il n'osait le confier à un messager ordinaire.
En effet, dit le roi, en prenant et en lisant la lettre, c'était l'avis de quitter la cour et de me retirer en Béarn.
Monsieur d'Auriac était de mes bons amis, quoique catholique, et il est probable que, comme gouverneur de province, il avait vent de ce qui s'était passé.
Ventre Saint-Gris, monsieur, pourquoi ne pas m'avoir remis cette lettre il y a 3 jours, au lieu de me la remettre aujourd'hui ?
Parce que, ainsi que j'ai l'honneur de le dire à votre majesté, quelque diligence que j'ai faite, je n'ai pu arriver qu'hier.
« Ah, c'est fâcheux, murmura le roi, car à cette heure nous serions en sûreté, soit à La Rochelle, soit dans quelque bonne plaine avec 2 ou 3 000 chevaux autour de nous. »
« Alors, sire, ce qui est fait, dit Marguerite à demi-voix, et au lieu de perdre votre temps à récriminer sur le passé, il s'agit de tirer le meilleur parti possible de l'avenir. »
À ma place, dit Henri avec son regard interrogateur, vous auriez donc encore quelque espoir, madame ?
Oui, certes, et je regarderai le jeu engagé comme une partie en 3 points dont je n'ai perdu que la première manche.
Ah, madame, dit tout bas Henri, si j'étais sûr que vous fussiez de moitié dans mon jeu.
Si j'avais voulu passer du côté de vos adversaires, répondit Marguerite, il me semble que je n'eusse point attendu si tard.
C'est juste, dit Henri, je suis un ingrat, et comme vous dites, tout peut encore se réparer aujourd'hui.
« Hélas, sire, répliqua La Mole, je souhaite à votre majesté toutes sortes de bonheur, mais aujourd'hui nous n'avons plus monsieur l'amiral. »
Henri se mit à sourire de ce sourire de paysan matois que l'on ne comprit à la cour que le jour où il fut roi de France.
« Mais, madame, reprit-il en regardant La Mole avec attention, ce gentilhomme ne peut demeurer chez vous sans vous gêner infiniment et sans être exposé à de fâcheuses surprises. Qu'en ferez-vous ?
« Mais, sire, dit Marguerite, ne pourrions-nous le faire sortir du Louvre, car je suis en tout point de votre avis.
»« C'est difficile. »«
Sire, monsieur de La Mole, ne peut-il trouver un peu de place dans la maison de votre majesté ?»«
Hélas, madame, vous me traitez toujours comme si j'étais encore roi des Huguenots, comme si j'avais encore un peuple. Vous savez bien que je suis à moitié converti et que je n'ai plus de peuple du tout. »
Une autre que Marguerite se fut empressée de répondre sur le champ, il est catholique, mais la reine voulait se faire demander par Henri ce qu'elle désirait obtenir de lui.
Quant à La Mole, voyant cette réserve de sa protectrice et ne sachant encore où poser le pied sur le terrain glissant d'une cour aussi dangereuse que l'était celle de France, il se tut également.
Mais, reprit Henri, relisant la lettre apportée par La Mole, que me dit donc monsieur le gouverneur de Provence, que votre mère était catholique et que de là vient l'amitié qu'il vous porte ?
« Et à moi, dit Marguerite, que me parliez-vous d'un vœu que vous avez fait, monsieur le comte, d'un changement de religion ? Mes idées se brouillent à cet égard. Aidez-moi donc, monsieur de La Mole, ne s'agissait-il pas de quelque chose de semblable à ce que paraît désirer le roi ?
Eh bien, quel est ce vœu ? Demanda le roi.
« Sire, dit La Mole, poursuivi par des assassins, sans armes, presque mourante de mes 2 blessures, il m'a semblé voir l'ombre de ma mère me guidant vers le Louvre une croix à la main. » Alors j'ai fait le vœu, si j'avais la vie sauve, d'adopter la religion de ma mère, à qui Dieu avait permis de sortir de son tombeau pour me servir de guide pendant cette horrible nuit. Dieu m'a conduit ici, sire. Je m'y vois sous la double protection d'une fille de France et du roi de Navarre. Ma vie a été sauvée miraculeusement. Je n'ai donc qu'à accomplir mon vœu, sire. Je suis prêt à me faire catholique. »
Henri fronça le sourcil. Le sceptique qu'il était comprenait bien l'abjuration par intérêt, mais il doutait fort de l'abjuration par la foi.
« Le roi ne veut pas se charger de mon protégé, » pensa Marguerite. La Mole, cependant, demeurait timide et gênée entre les 2 volontés contraires. Il sentait bien, sans se l'expliquer, le ridicule de sa position. Ce fut encore Marguerite, avec sa délicatesse de femme, qui le tira de ce mauvais pas.
Sire, dit-elle, nous oublions que le pauvre blessé a besoin de repos. Moi-même, je tombe de sommeil. Et tenez-je. La mole pâlissait en effet, mais c'était les dernières paroles de Marguerite qu'il avait entendues et interprétées qui le faisaient pâlir. « Eh bien, madame, dit Henri, rien de plus simple. Ne pouvons-nous laisser reposer monsieur de la Mole ?» Le jeune homme adressa à Marguerite un regard suppliant et, malgré la présence des deux majestés, se laissa aller sur un canapé, brisé de douleur et de fatigue. Marguerite comprit tout ce qu'il y avait d'amour dans ce regard et de désespoir dans cette faiblesse. « Sire, dit-elle, il convient à votre majesté de faire à ce jeune gentilhomme qui a risqué sa vie pour son roi, puisqu'il accourait ici pour vous annoncer la mort de l'amiral et de Téligny lorsqu'il était blessé, il convient, vous dis-je, à votre majesté de lui faire un honneur, dont il sera reconnaissant toute sa vie. « Et lequel, dit Henri, commandez, je suis prêt. Monsieur de la Mole couchera cette nuit aux pieds de votre majesté, qui couchera, elle, sur ce lit de repos. » Quant à moi, avec la permission de mon auguste époux, ajouta Marguerite en souriant, je vais appeler Gionne et me remettre au lit, car je vous le jure, sire, je ne suis pas celle de nous trois qui ait le moins besoin de repos. Henri avait de l'esprit, peut-être un peu trop même. Ses amis et ses ennemis le lui reprochèrent plus tard. Mais il comprit que celle qui l'exilait de la couche conjugale en avait acquis le droit par l'indifférence même qu'il avait manifestée pour elle. D'ailleurs, Marguerite venait de se venger de cette indifférence en lui sauvant la vie. Il ne mit donc pas d'amour-propre dans sa réponse. « Madame, dit-il, si monsieur de la Mole était en état de passer dans mon appartement, je lui offrirais mon propre lit. »« Oui, reprit Marguerite, mais votre appartement à cette heure ne peut protéger ni l'un ni l'autre, et la prudence veut que votre majesté demeure ici jusqu'à demain. » Et sans attendre la réponse du roi, elle appela Gionne pour préparer les coussins pour le roi, et au pied du roi fit un lit pour la Mole, qui semblait si heureux et si satisfait de cet honneur qu'on eût juré qu'il ne sentait plus ses blessures. Quant à Marguerite, elle tira au roi une cérémonieuse révérence, et rentrée dans sa chambre, bien verrouillée de tous côtés, elle s'étendit dans son lit. « Maintenant, se dit Marguerite à elle-même, il faut que demain, monsieur de la Mole ait un protecteur au Louvre, et elle fait ce soir la sourde oreille qui, demain, se repentira. » Puis elle fit signe à Gionne, qui attendait ses derniers ordres, de venir les recevoir. Gionne s'approcha. « Gionne, lui dit-elle tout bas, il faut que demain, sous un prétexte quelconque, mon frère, le duc d'Alençon, ait envie de venir ici avant 8 heures du matin. » 2 heures sonnaient au Louvre. La Mole causa un instant politique avec le roi, qui peu à peu s'endormit et bientôt ronfla aux éclats, comme s'il eût été couché dans son lit de cuir du Béarn. La Mole eut peut-être dormi comme le roi, mais Marguerite ne dormait pas, elle se tournait et se retournait dans son lit, et ce bruit troublait les idées et le sommeil du jeune homme. « Il est bien jeune, murmurait Marguerite au milieu de son insomnie, il est bien timide. Peut-être même, il faudra voir cela, peut-être même sera-t-il ridicule. De beaux yeux, cependant, une taille bien prise, beaucoup de charme. Mais s'il allait ne pas être brave, il fuyait, il abjure. C'est fâcheux, le rêve commençait bien. Allons, laissons aller les choses et rapportons-nous au triple dieu de cette folle Henriette. » Et vers le jour, Marguerite finit par s'endormir en murmurant « Eros, Cupido, Amor ».